L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Nicolas.
Les membres de la mission transpartisane commencent à rentrer en Nouvelle-Calédonie et vous recevez le vice-président du gouvernement.
Notre invité du matin, c'est Christopher Gigès, vice-président du gouvernement. En effet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter votre invitation au lendemain de votre retour de Paris où vous avez participé à cette fameuse mission transpartisane. Vous étiez parti chercher l'aide financière de l'État, des milliards. Est-ce que vous avez obtenu ce que vous vouliez ?
Oui, largement, parce que déjà, la mission est un succès pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que on était allé à Paris en format transpartisan avec différentes formations politiques pour dire un certain nombre de vérités, c'est-à-dire qu'il y avait une petite musique qui commençait à s'installer par Bercy, de dire que les Calédoniens étaient des enfants gâtés, les Calédoniens ne faisaient pas de réformes, les Calédoniens ne faisaient juste que prendre l'argent de la France. Et donc c'était important de montrer que nous aussi on faisait des réformes qui étaient largement supérieures à ce qui était fait en métropole, sur le jour de carence, sur un dépôt sur la réforme des retraites, sur la baisse des dotations publiques. Et donc c'était important de pouvoir dire ça.
Et vous avez convaincu vos interlocuteurs?
Je pense qu'ils se sont rendus compte que toutes les informations ne remontaient pas au plus haut niveau de l'État, donc que la mission interministérielle ne faisait pas forcément ce qu'il fallait pour remonter ces informations-là. Quand on dit qu'on est en capacité d'augmenter le prix de l'électricité de 20%, quand on met le jour de carence au premier jour, quand on baisse la retraite des fonctionnaires, et donc quand les Calédoniens souffrent de ces réformes, et quand le débat en métropole est de savoir si on va juste désindexer les retraites les plus élevées au niveau national. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience, et c'est ce qui nous a permis d'obtenir ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire d'avoir une somme pour finir l'année 2026,
mais également 1,3 milliard pour finir l'année 2026.
Ouais, en fait c'est plutôt 7,3 milliards, parce que c'est à la fois pour finir 2026 et pour commencer 2027, parce que comme on n'aura pas forcément le budget en janvier, c'est important. C'est la réalité des choses, c'est que si on n'avait pas cette somme, les retraites n'étaient pas payées du secteur privé, donc ça a permis de sécuriser le régime de retraite du secteur privé et d'assurer la continuité des différents services publics.
Et cette aide pour finir l'année, pour commencer 2027, est-ce qu'elle est soumise à des conditions et lesquelles ?
Non, il n'y a aucune condition sur cette partie. Il y a naturellement le fait qu'il ne faut pas qu'on aggrave le déficit de la Nouvelle-Calédonie. Mais là aussi, on a une définition qui était un petit peu différente de ce qu'on a pu avoir ces derniers mois. On a vu un Premier ministre, notamment Sébastien Lecornu, qui était dans une logique d'un regard offensif sur la relance économique, quand on avait la mission interministérielle qui était plus dans l'idée, surtout, mettez pas en place des mesures de relance. Là, on a vraiment pu échanger avec le Premier ministre sur des réformes de fond pour la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il en faut et parce que on les fait pas pour l'État, on les fait pour nous-mêmes, mais également des mesures de soutien, de relance de l'économie calédonienne. Les Calédoniens ont vécu beaucoup de choses douloureuses. Ils méritent aussi des mesures qui soient attractives et positives.
Alors, ce premier train de mesures, donc pour la fin 2026, début 2027, ça doit passer par un projet de loi de finances de fin de gestion. Ça doit passer. Ça, a priori, il n'y aura pas de difficulté d'adoption.
Oui, normalement, il n'y aura pas de difficulté d'adoption. Néanmoins, je reste très prudent. Vous savez, j'ai vécu la dissolution de l'Assemblée nationale. J'ai vécu pas mal de choses qui sont des petits bâtons dans les roues pendant les éléments budgétaires calédoniens. Et c'est pour ça qu'on a souhaité voir, outre le gouvernement, mais également les groupes politiques au Sénat et à l'Assemblée nationale, pour leur dire que s'il y avait un certain nombre de textes qui ne passaient pas au niveau budgétaire, au niveau national, ça mettait en grand danger la Nouvelle-Calédonie sur son fonctionnement courant. Donc c'était important de travailler avec le gouvernement de la République, mais également de voir les groupes politiques à l'Assemblée et au Sénat.
Et là, il y a une unanimité, d'ailleurs, qu'a souligné la mission pendant ce déplacement, avec notamment une lettre du groupe de contact de l'Assemblée nationale signée par tous les groupes politiques du Rassemblement national à LFI. Ça, c'est exceptionnel. Pourquoi est-ce que... D'où vient ce soutien indéfectible, dit-il, à la Nouvelle-Calédonie?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est déjà exceptionnel d'avoir ce type de soutien unanime. C'est d'autant plus exceptionnel qu'il est unanime à quelques mois des élections présidentielles. Mais je crois qu'il y a un travail qui est fait depuis pas mal de temps par les institutions locales, par Nicolas Metzdorf également à l'Assemblée nationale, par tous les relais qu'on peut avoir, par le président du gouvernement, par Sonia Backès, par Virginie Rufnac sur les différents groupes de contact, qui fait qu'aujourd'hui on doit avoir cette unanimité et cette prise de conscience. Ensuite, il faut que les signatures qui sont posées traduisent une responsabilité réelle au moment du débat budgétaire.
Et ça, on le verra effectivement lors du débat sur l'adoption de la loi de finances 2027. Parce que donc, il y a cette aide pour finir l'année, pour démarrer 2027, et puis il y a l'engagement pour l'année 2027, 48 à 55 milliards de francs qui seront inscrits dans ce projet de loi de finances 2027, principalement sous forme de subventions. Alors, ça veut dire quoi? Il y a une partie qui sera en emprunt?
Oui, il y aura une petite partie qui sera en emprunt. Ça, c'est vraiment la grosse révolution par rapport aux derniers mois de discussion avec l'État. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore le niveau réel de subvention, mais on sera très largement au-dessus de 60% en subvention, ce qui est un effort majeur de la nation pendant la période actuelle. On le voit, le Premier ministre disait encore ce matin qu'il y aurait des coupes budgétaires importantes. Ça ne va pas concerner la Nouvelle-Calédonie. Il y aura cet accompagnement de l'État qui nous permet de sécuriser 2027. C'est-à-dire qu'on va être dans une période de campagne présidentielle. On ne sait pas quand on aura une nouvelle équipe gouvernementale. On ne sait pas quand la nouvelle équipe gouvernementale sera au courant du dossier calédonien, qui est légèrement complexe. Et donc, c'était important de sécuriser. C'était le maximum qu'on devait avoir. Enfin, il y a des discussions qui doivent être faites encore sur dans ces 55 milliards, parce qu'on prend la fourchette haute, hein, on ne prend pas la fourchette basse. Est-ce qu'on compte les 7 milliards de 2026-2027 qu'on doit rembourser parce que c'est en avance remboursable? Et est-ce qu'on a le non-remboursement des échéances de la dette? C'est des petits points qu'on doit encore aborder avec le haut-commissaire notamment.
Mais alors, oui, parce que ce soutien doit faire l'objet d'un contrat financier pluriannuel sur la période 2027-2031 qui doit encore être négocié. Ça va être fait par qui? C'est le haut-commissaire qui sera à la manœuvre là?
Oui, notamment le haut-commissaire et nous, et les différents représentants politiques. Ça a été une proposition qui a été faite par le président du gouvernement d'un contrat de responsabilité. Je le redis, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des réformes pour l'État, on fait des réformes pour nous-mêmes et pour nous en sortir. Il y avait déjà un certain nombre de réformes qui ont été annoncées sur les retraites, sur le RUAM, sur la fiscalité. Pas dans une réforme fiscale où on alourdit la pression fiscale sur les Calédoniens, mais au contraire sur une simplification fiscale et sur des impôts à assiette très large et à taux bas. Donc ça, c'est des choses qu'on abordera. On a beaucoup abordé, et on a été plusieurs à l'aborder, la question de l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie, comment on arrive à restaurer cette attractivité, comment on arrive à faire revenir du monde sur ce territoire, des investisseurs, des consommateurs. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on partageait avec la mission transpartisane, mais également avec les plus hauts représentants de l'État.
Cette attractivité...
il faut que ça descende au niveau également des services et de Bercy, parce qu'on a des très belles déclarations du Premier ministre, avec qui on est particulièrement en phase sur le niveau économique, mais il faut que Bercy l'entende également.
Voilà, parce que cette attractivité, ça peut passer notamment par la fiscalité, une fiscalité plus attractive. On sait que c'est très vendeur dans le monde et dans les pays occidentaux. Les Calédoniens ont un petit doute quand on leur dit qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Ils se disent que ce n'est pas possible face aux efforts qu'on va nous demander, face aux réformes qu'il y a à faire. Il y aura forcément une augmentation de la fiscalité.
Ça fait un an et 8 mois que je suis membre du gouvernement en charge de la fiscalité. J'avais dit que je n'augmenterais pas les impôts. Je n'ai pas augmenté les impôts. On est toujours dans cette logique-là. Il y a augmentation de la pression fiscale et augmentation du rendement fiscal. Le rendement fiscal, il passe par une reprise de l'activité économique. Et la reprise de l'activité économique ne repose pas sur des déclarations de dire qu'on va augmenter les impôts aux Calédoniens, aux entreprises.
Alors ce contrat qui doit être négocié doit également apporter une réponse durable à la question de la dette calédonienne, a écrit le Premier ministre. Comment ça se traduit? Est-ce que la question du désendettement a été mise sur la table également?
Oui, très clairement. C'est-à-dire que c'est la question notamment de ce qu'on devait rembourser l'année prochaine. C'était un des points encore à évoquer. Mais là, vraiment, ça doit s'inscrire dans le contrat de responsabilité, le contrat de désendettement. On l'a très clairement dit, c'est-à-dire qu'avec la somme qui a été proposée, si on devait rembourser 8 milliards d'emprunts, ça ne passait pas. Donc, il y a eu des engagements dans le cadre de Élysée Oudinot. Enfin, Élysée Oudinot, Bougival, tout ça n'est pas tombé du fait des Calédoniens. Il est tombé parce que l'Assemblée nationale n'a pas pris ses responsabilités le moment venu. Et enfin, par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, je pense qu'il y a quand même une forme de mea culpa du Parlement sur la partie institutionnelle qui fait qu'aujourd'hui ils sont très accompagnateurs sur la partie économique et budgétaire.
Parce que la partie pacte de refondation et de relance d'Élysée Oudinot est maintenue même si Bougival est tombé.
Oui, très clairement. Enfin, et l'État continue à soutenir sur cette partie. Mais ce qui ne nous empêche pas également, nous, de prendre des mesures de relance économique et de refondation économique, c'est ce que font les différentes collectivités.
Et alors, justement, quelles vont être les priorités maintenant? Quelles sont les réformes qu'il faut absolument lancer? Il y en a qui doivent être adaptées, ce qu'avait dit le président du gouvernement dans son discours de politique générale. Sa déclaration de politique générale, il y en a qui doivent être adoptés avant le 31 décembre.
Oui, la question des retraites, notamment, il y a deux textes sur le bureau du Congrès. Il faut le dire très clairement, on devra travailler plus longtemps. Ce n'est pas une question de Nouvelle-Calédonie, c'est une question mondiale. La question d'une dose de capitalisation doit également être abordée, mais c'est des choses qui doivent être faites avec les partenaires sociaux, et le président du gouvernement les a vus avant de partir. Et je vous dis, il y a des mesures fiscales, de simplification fiscale, d'attractivité qui doivent être prises. J'aurai l'occasion de présenter au gouvernement la question des droits de succession et la suppression des droits de succession que je proposerai au gouvernement. Mais ces différentes réformes seront proposées d'ici la fin de l'année.
Réforme d'Urbam également, elle doit être lancée très vite.
Oui, enfin, il y a déjà un texte sur le bureau du Congrès. Je pense que les partenaires sociaux, là aussi, ont été saisis. On est dans la même logique un peu que de la fiscalité, c'est-à-dire qu'on doit avoir une grande simplification de ce qui est sur les différentes niches, sur les différentes économies qui doivent être réalisées, mais un taux qui est unique et qui est le plus bas possible pour que le coût du travail soit pas impacté. Et au contraire, si on peut aller baisser le coût du travail et augmenter le salaire des Calédoniens, ça sera encore une victoire.
Alors au-delà de ces engagements financiers, on y a déjà fait allusion, vous avez été reçu par tout le monde à Paris. C'est vrai que c'est quand même assez un peu exceptionnel. Tout le monde a l'air sensibilisé, en tout cas quand ils vous reçoivent, à la situation de la Nouvelle-Calédonie. C'est dû à quoi? Alors vous l'avez déjà un peu évoqué, mais le fait que vous parliez d'une seule voix, le fait qu'ils aient réalisé que la situation de la Calédonie était quand même assez catastrophique et qu'il fallait relancer, qu'est-ce qui fait que tout le monde vous a reçu, tout le monde vous a entendu?
Je crois que déjà que c'est une chance, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune collectivité de la République qui est reçue la même semaine par Bercy, par le Premier ministre et par le Président de la République. Donc il y a un moment, il faut qu'on se dise les choses. La Nouvelle-Calédonie est traitée et est bien traitée au plus haut niveau de l'État, de longue date. C'est-à-dire que c'est pas que là, mais la Nouvelle-Calédonie est quand même un territoire particulier qui a connu des choses particulières et où il y a aussi des enjeux stratégiques dans notre région qui imposent, qui doit avoir un traitement particulier.
Alors vous avez notamment été reçu à l'Élysée par le président de la République. C'était pas prévu à l'origine. Ça s'est déroulé comment et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
On a surtout parlé nickel. Ça s'est très bien déroulé avec le président et ses différents conseillers. On lui a fait part de la nécessité absolue de décider sur la question du nickel, sur la reprise de l'usine du Sud, sur la question de la SLN, sur la reprise de l'usine du Nord. Il a évoqué ses contraintes notamment sur la Chine. On s'est plaint à plusieurs qu'il n'y ait pas d'offres qui soient françaises et européennes pour la reprise des usines de nickel. Donc on a eu un discours assez franc avec le président de la République, comme d'habitude.
Et un repreneur français, européen, occidental, c'est inenvisageable pour l'instant. Il n'y en a pas qui
n'est
pas
très bien possible. Non, c'est pas envisageable pour le moment. Enfin, moi, je regrette que Eramet, qui était un peu une présence de la France en Nouvelle-Calédonie, ne soit pas ceux qui se positionnent sur le rachat des autres usines. Mais c'est comme ça. Ensuite, il y a une autre réalité, c'est que notre nickel, il est principalement exporté vers la Chine aujourd'hui. Il est possible que le commissaire européen à l'industrie vienne en Nouvelle-Calédonie en fin d'année. J'espère que ça sera l'occasion d'avoir des exportations d'un nickel européen du Pacifique vers l'Europe et d'avoir une vraie stratégie européenne dans le Pacifique.
À mode politique, c'était une mission transpartisane, on l'a dit, c'était son intitulé. De toute façon, il y avait l'absence du FLNKS qui avait décidé de ne pas venir. Est-ce que ça a pesé? Est-ce que ça a été relevé? Est-ce que ça a été un manque dans votre mission?
Moi, je crois que les résultats parlent d'eux-mêmes. Je pense que il y a eu encore une occasion manquée de la part du FLNKS. Je respecte leur position. Il y avait le député de Chibaou qui était là, qui a joué, je le dis, pleinement son rôle dans les discussions, et je salue moi sa présence. Je pense que sa présence à Paris était certainement plus utile que certains à Palau.
Globalement, donc une mission réussie. Vous êtes satisfait? Vous mission accomplie en quelque sorte.
Oui, mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que c'est maintenant on doit avoir la négociation sur ce contrat de responsabilité, contrat de désendettement, et on doit poursuivre nos réformes, on doit refaire de la Nouvelle-Calédonie un territoire qui est attractif. On a ce soutien de l'État qu'il faut maintenant matérialiser, parce que ça fait quelques années maintenant que je suis au gouvernement, et le diable est dans les détails, et parfois Bercy aime beaucoup les détails, et donc il faut être toujours très vigilant. Mais d'avoir le soutien notamment du Premier ministre de cette manière nous aide beaucoup et nous encourage.
Ce contrat de responsabilité qui doit être signé, il y a un délai? Ça doit être vraiment dans les prochaines semaines, ou il y a un peu de temps?
Non, il n'y a pas de temps. Il y a du temps pour sur la partie désendettement et affinage de la partie désendettement. Par contre, il faut que le contrat de responsabilité puisse être établi très rapidement, mais je crois que des personnalités viendront prochainement pour discuter de ça.
Christopher Gégès, vice-président du gouvernement, merci d'accepter cette invitation.
Merci à vous.
L'invité du matin vous a été proposé par Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3 900 francs par jour. Seulement 3 900 francs par jour. Toyota Location, à Nouméa, Kone et Lifou. Un seul numéro, 24 28 28.